Excellent. Et on est en direct. Bonjour à tous. Bienvenue à un épisode spécial de la confrérie de métal aujourd'hui des Science Review avec Maxime Saint-Onge qui est habituellement là, donc Dr. Ken. Puis un invité qu'on est vraiment, vraiment content que tu sois là. Merci d'être là, Matt. C'est vraiment, vraiment cool. J'ai hâte qu'on parle de ça ensemble. Ça faisait un bout qu'on se disait qu'on voulait avoir des invités et qu'on voulait avoir d'autres personnes pour là. Puis on est vraiment, vraiment content que tu sois là. Merci d'être là.
Avouez que tu aurais parlé du supplément, tu m'aurais pas invité, j'aurais été insulté.
Ben, on a envisagé Giant Michaels, là, mais on s'est dit, on va commencer avec Matt un peu.
T'étais pas libre.
C'est ça. On va se tenter avec ça. Aujourd'hui, on a un podcast vraiment, vraiment très cool. Je fais ma petite intro. Je sais que vous êtes pas là pour m'entendre moi parler. Je vais faire ma petite intro sur c'est quoi le dé, vers où qu'on va spinner ça. J'ai fait une story Instagram pour ramasser vos questions. Tout le monde sur les suppléments. On va faire un podcast sur la supplémentation générale, plus santé générale. Je vais laisser Maxime puis Mathieu parler de ça. L'idée, c'est d'avoir une conversation, c'est d'avoir une discussion. Fait qu'à tout moment, jamais vous avez des questions, des commentaires pour nous. On a déjà 7 personnes sur le live. N'hésitez pas à nous écrire. C'est un plaisir que vous soyez là. Si vous avez des points que vous voulez qu'on enchère, on a 2 personnes qui ont une vision qui est très, très complémentaire. Ça va être super, super intéressant. On a Mathieu, naturopathe, fondateur de l'Institut AAT. Tu as aussi une formation en médecine fonctionnelle de... C'est où? C'est au State, ton affaire?
Oui, la Functional Medicine University, puis après ça, il y a une couple d'autres, mais c'est pas important.
Oui, c'est ça. Puis Maxime Saint-Onge, Dr. Kin, qui a déjà été présenté sur le podcast une couple de fois. Concrètement, Maxime, c'est un croisé. Sinon, il a fait aussi son... Maxime, il a un doctorat en sciences d'activité physique, maîtrise en sciences en nutrition, puis plus connu sous le nom de Dr. Kin. Fait qu'on a Maxime qui était... Je sais que t'aimes pas ça quand on dit ça, mais je vais le dire pareil parce que je suis un thug. Maxime, il vient du côté très, très, très académique de la chose. Quand même, c'est une grosse partie de kickter. Puis on a Matt qui vient du côté beaucoup, beaucoup terrain, naturopathie, ce qui se passe directement. Matt, il y a un gros background en bodybuilding, un background en bodybuilding. Fait que tu sais, ça vient vraiment de ça. Puis les deux, c'est ça qui est très, très cool, c'est qu'on a tendance à souvent rendre ces deux affaires dans les extrêmes. Où est-ce que tu es un gars de science, tu te perds dans les livres, puis tu fais rien d'autre. Mais Maxime, coach du monde. Puis t'as Matt aussi qui vient du côté peut-être un peu plus terrain, mais qui lit beaucoup d'études scientifiques, puis qui s'intéresse vraiment, vraiment beaucoup à ça. Fait que je pense qu'on va avoir une conversation super intéressante là-dedans. Fait que merci beaucoup d'être là. C'est vraiment, vraiment cool que vous soyez là. Première question pour lancer la balle. Mathieu, supplémentation et santé générale. C'est quoi ton opinion là-dedans?
Ben, c'est un argument que je crois qui est super intéressant de véhiculer. J'ai fait quand même quelques posts là-dessus. C'est que, comme étant la vie moderne actuelle, là, disons, si on regarde l'Américain moyen, là, on ne regarde pas ce que, exemple, moi ou Alex, ou je ne sais pas si Max suit une bonne alimentation ou s'il mange des pogos, mais c'est pas grave. Mais disons, quelqu'un qui mange très bien, c'est sûr que le besoin de suppléments vient quand même minimiser. Bon, on va se comprendre. Encore là, si vous avez essayé de mettre une diète dans, par exemple, un MyFitnessPal et de regarder l'apport vitamines, minéraux, c'est très dur de frapper 100% de tout avec de la nourriture. Tu sais, il y a certaines choses de même que j'ai pas été capable. Tu sais, genre, je ne peux pas manger assez ou assez diversifié pour taper 100% de tous les vitamines, tous les minéraux. Ça, c'est intéressant. C'est un argument que j'ai eu avec Vanessa Daigle, que Alex connaît, qui est nutritionniste.
Maxime aussi l'a eu sur son podcast. À lui, Maxime, sur son podcast.
Ah bon, regarde. Donc, on le reconnaît tous, Vanessa, finalement.
On t'aime, Vanessa. Si t'écoutes, on te fait un petit shout-out. Merci.
Mais bon. Ah, faut écouter l'un enfant, tout
ça. C'est ça, ouais, ça avance pas.
Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça vient aussi en naturopathie, ou même en plus en médecine fonctionnelle, parce que naturopathie, le terme au Québec, c'est comme si je te disais, moi, dans mon école de chaman, non, c'est vraiment la même affaire, mais donc en médecine fonctionnelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de carence nutritionnelle, mais on parle aussi de carence relative au niveau nutritionnel. Le terme relatif, par la médecine, peut accepter ou pas accepter, parce que pour eux, c'est une carence, ça cause un dysfonctionnement. Donc, la discussion que j'avais eue avec Vanessa, un peu en ligne et beaucoup hors ligne, c'est que, OK, si le monde manque tellement pas de nutriments, pourquoi on a tant d'études qui disent que quand tu donnes un nutriment, il y a une action et la personne n'était pas carencée? Il y a clairement quelque chose qui se passe. Là. Je ne dis pas que c'est une science absolue, je ne dis pas que tout le monde devrait prendre des suppléments, mais clairement, que même si on se fie aux statistiques de Santé Canada, là, qui sont plus ou moins bonnes parce qu'on va plus se fier à ce qui est produit et ce qui est acheté plutôt que ce qui est consommé, là, ou sinon c'est des sondages, on appelle chez vous, salut, combien de fois tu as mangé le bleuet dans le dernier mois? Là. Donc, c'est assez biaisé. On se rend compte que même avec ce qui est produit, Santé Canada admet qu'il y a des carences nutritionnelles d'un ordre assez important dans des vitamines qui jouent quand même un rôle assez important dans la santé humaine. Et on laisse la vitamine D en dehors de ça, parce que je pense que la vitamine D a un sujet, on en parlera à Max ensemble.
Ouais, on l'a dans la question, en fait.
D'accord, plein de points là-dessus. Si on va vitamine A, magnésium, c'est les deux pires, si on se fie à Santé Canada. Donc, la vitamine A, rétinol, pour ceux qui ne savent pas, si tu n'as pas assez de rétinol, ça va vraiment mal. Il y a vraiment un paquet d'affaires dans le corps humain qui ne fonctionne pas super bien. Puis c'est pas vrai que tu peux convertir ton bêta-carotène en rétinol de manière très efficace. Donc, tu sais, le monde qui pense qu'en faisant un body bunny, ils vont avoir du rétinol. Tout bad, mais la génétique n'est pas de votre bord à ce point-là.
Ouais.
Même chose, magnésium. Là, on s'entend que là, en plus, ils parlent de magnésium, puis souvent, c'est la pire affaire. Parce que si on regarde les études scientifiques pour le magnésium, qu'est-ce qui excrète du magnésium ou qu'est-ce qui augmente l'utilisation du magnésium? Ben, on devrait regarder vie dans le monde moderne, oui. Augmente les besoins en magnésium.
Ouais.
Point.
Le stress et toute la patente. Là,
c'est déjà que c'est une chose qui est dure à aller chercher. Donc, 420 mg élémentaires. Quand on est encore le débat de l'acide phytique dans les végétaux, là, qui ont quand même une interaction, mais ça, c'est si tu manges tout cru. On s'entend. Il n'y a pas grand monde qui mange toute sa nourriture crue. La plupart des gens vont manger les céréales cuites, ils vont manger les légumes cuits. Donc, les antinutriments, encore là, c'est très. Il faut le comprendre pour l'appliquer. Fait que je pense que c'est faux de penser que le monde moderne est capable de s'en tirer optimalement sans supplément. Mais c'est pas vrai que tout le monde a besoin d'un million de suppléments.
Ce point-là est vraiment intéressant parce que j'aime ton idée que c'est une science qui est en train d'être beaucoup, beaucoup. On dirait que l'évolution de ça, c'est passé de faut supplémenter à juste les suppléments ne servent plus à rien. On dirait qu'on voit une espèce de courant dans la littérature qui a tendance à tendre vers ça un peu. Fait que j'aime beaucoup ta position de c'est important de considérer le monde modèle, puis dans certaines affaires comme ça, je pense que c'est intéressant. Là. Maxime?
Rien à rajouter. Fait que.
Non. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. À la semaine prochaine. C'est ça. Jeudi 14h.
Tu m'envoies le chèque par la poste, comme d'habitude. C'est ça. C'est ça. Non, ben, moi, je te dirais, c'est plus en amont que je vois ça. Puis c'est un petit peu ce qui me titille avec l'industrie de des suppléments. C'est. Tu sais, à la base, il y a très peu de dosage qui se fait au sein de la population pour déterminer si effectivement il y a des carences ou non. Tu sais, il y a une grande proportion de gens qui vont en quelque sorte s'auto-médicamenter. Tu sais, le classique avec la multivitamine, de dire, ah ben, je dois en avoir besoin, fait que je vais en prendre une. Mais tu sais, ce processus-là, cette banalisation-là, je vais juste prendre l'exemple des vitamines. On dirait qu'il y a peu de gens qui sont conscients qu'il peut y avoir des risques quand même à cette automédicamentation-là. Tu sais, c'est rendu anodin, banal, sans danger. Mais tu sais, il y a des histoires chez des enfants de problèmes avec justement la surconsommation de vitamine D, avec des troubles de développement osseux. Tu sais, c'est quelque chose qui peut arriver sans être nécessairement quelque chose de fréquent. Fait que tu sais, je trouve que moi, ce qui me gosse un peu là, dans l'histoire des suppléments, c'est il n'y a pas assez de tests qui suit le marché des suppléments. Tu sais, c'est un gros marché lucratif, mais moi, je m'attendrais à ce qu'il y ait beaucoup de tests en laboratoire, que les gens, tu t'en vas chez ton médecin de famille, tu fais doser classique, là, on mesure si tu as des carences dans les vitamines les plus fréquentes, les minéraux les plus fréquents. Mais c'est des tests qui se font jamais ou pratiquement pas. Fait que moi, c'est cet écart-là que je trouve un peu inquiétant, c'est qu'on y va à tâtons. Tu sais, on va supposer que ben, il est fort probable que tu aies une carence. Puis quand tu rentres la notion de justement de besoin relatif, ben là aussi, c'est que tu as une étendue, ça veut dire que tu as une individualisation là-dedans.
Définis donc besoin relatif, Maxime, s'il te plaît.
Ben, tu sais, ben, ce que tu disais, c'est que dans le fond, c'est pas tout blanc ou noir. Tu as une gradation soit d'une hypervitaminose, d'une toxicité ou encore d'une carence. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir probablement des systèmes qui vont moins bien fonctionner avant d'être au-dessus d'un certain seuil. Tu sais, c'est pas, tu as 59 unités X, tu es correct parce que le seuil est 60, tu es à 61, tu meurs. Tu sais, il y a comme une relation dans l'effet, dans le besoin, etc. Mais tu sais, moi, c'est ce que je trouve problématique, c'est que ben, on n'évalue pas cliniquement les carences, on les suppose. Puis, ben, il y a une énorme quantité d'automédicamentation, de médicamentation, puis de prise de suppléments sans qu'on vérifie l'effet.
Ouais. C'est clair, puis on voit ça beaucoup dans. Tu sais, il y avait un truc qui avait sorti avec les antioxydants, entre autres, sur l'hypertrophie. Puis c'est quelque chose, c'est souvent ce qu'on voit dans les mix. Puis je sais que Matt, tu m'avais déjà donné ton opinion là-dessus. Tu sais, on voit beaucoup de monde mettre plein d'antioxydants dans plein de produits différents. Puis là, le vrai monde, ça commence à accumuler les antioxydants puis avoir des dosages qui sont juste super intenses, là. Puis tu sais, il y a une espèce de seuil où est-ce que, oui, ça peut être bon, je comprends. Mais tu sais, passer une étape, ça nuit carrément à tes gains en hypertrophie. Puis c'est un peu ça le point, Maxime, c'est qu'on, de ce que j'ai compris, ce que tu essaies d'amener comme idée, c'est que non seulement il y a une dose, mais il y a aussi un, il y a où est-ce que la personne a part par rapport à sa dose, tu sais. Fait que ça, je pense, ça va être important, là.
C'est ça, puis on fonctionne tout le temps dans le noir. Mm-hmm. Tu sais, tu m'as dit un exemple. Moi, là, genre, bon, là, avec la COVID, vitamine D, je me dis, ah, ben, je vais en prendre. Ben, OK, je vais en prendre, c'est correct. Mais j'étais à combien, moi? C'est quoi mon statut de vitamine D réel? Tu sais, fait que c'est, je le mesure-tu, je le mesure-tu pas? Fait que moi, c'est un petit peu ça, là. Puis entre autres, la banalité là, avec laquelle c'est utilisé. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours là, en tête, je suis rentré dans un pro shop de suppléments à un moment donné, puis je voulais acheter.
La dernière personne que je voulais qu'il rentre dans une boutique de suppléments.
Non, mais c'est juste de la whey.
Pas plaisir de te voir.
Je voulais acheter de la whey, puis je voulais de la whey qui était NSF. Tu sais, qui était il y avait un organisme externe qui avait validé le contenu. Tu sais, fait que moi, c'est ça que je voulais. Fait que je demande au gars, t'as-tu de la whey NSF? Il me dit, ouais, j'ai celle-là, mais j'ai l'autre à côté qui est meilleure. Je dis, ah, OK. Comment, tu sais, comme. Mais meilleur, pourquoi? Ils disent, moi, je l'ai essayé, là, puis j'ai tout de suite vu la différence. OK. Mais encore, tu sais, ah, moi, je l'ai senti dans les épaules, dans le chest, là, c'est comme, ça va changer complètement. Là, je suis comme, écoute, c'est pas de la sauce, là. Tu sais, c'est.
Je suis devenu une meilleure personne. Je suis devenu une meilleure personne depuis ma Wii, genre.
c'est pas la fameuse macho Wii, là, de.
Ouais. Mais tu sais, comment tu peux vérifier si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas? T'en as aucune idée. Tu sais, puis moi, c'est ce qui. Dans le milieu des suppléments, il y a pratiquement aucun supplément que, avec les moyens du bord, tu peux vraiment savoir si ça marche ou si ça marche pas. À moins que tu aies des carences sévères dans quelque chose, tu supplémentes, boum, t'es correct. Mais sinon, tu sais, comment tu fais pour savoir que ta créatine, elle fonctionne? Comment tu fais pour savoir que ta whey, elle fonctionne? Comment tu fais pour savoir que ta vitamine C, elle fonctionne? Mm-hmm. On n'a pas de moyen de l'évaluer. C'est dangereux dans ce temps-là. T'sais, parce que ben, tu peux te faire vendre n'importe quoi. Tu peux utiliser quelque chose qui ne te sert pas. Tu peux, tu sais, c'est un petit peu ça.
Matt, quelque chose à rajouter là-dessus?
Ouais. T'sais, c'est sûr que pour beaucoup de suppléments, là, on va quand même nuancer, là, l'innocuité, la paix est très grande. Donc, c'est très sécuritaire, ouais, une très grande variété de suppléments. Même les vitamines liposolubles, il faudrait quand même que tu mégadoses pendant un bon moment avant d'avoir des taux qui sont problématiques chez l'adulte. Chez l'adulte. Il faut être un abruti pour recommander des mégadoses de vitamine D et A à un enfant.
Ouais.
Bon, je sais que ça se fait. Mais bon, pour ça que j'ai.
C'est le même problème un peu avec l'industrie des naturopathes, là, sans vouloir être. Puis je dis ça en étant certifié.
Oh, oui,
la variété est très, très grande.
C'est ça. Fait que les gens ont de la difficulté à comprendre le mécanisme, à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mon mentor, Alex Vasquez, fait des vidéos depuis le début de la COVID pour parler justement de l'impact des nutriments sur la réponse immunitaire. Le monsieur a quand même trois doctorats. Donc, il est quand même capable de véhiculer l'information. Puis comme il dit tout le temps, ça fait comme 7 ans que je le connais, puis il dit, les suppléments, ils ont une innocuité assez bonne tant que tu restes dans un dosage relativement physiologique. Tu sais, c'est très dur d'être intoxiqué en prenant 50 mg de zinc. Tu sais, c'est très dur d'être intoxiqué en prenant, mettons, on y va à 5000 unités de vitamine A, ben tu pourrais en prendre 5000 tous les jours qui ne se passerait pas grand-chose à part que tu serais sûr d'avoir de la vitamine A. Tu sais, pour se rendre compte qu'il y a certains nutriments, comme la vitamine A d'ailleurs, qu'il faut juste que tu manges mal en 6 mois pour ne pas en avoir dans le corps. T'sais, parce que moi, normalement, que tu manges de la viande, il y en a dedans. Je pense que si je me souviens bien, le daily value, là, tu manges 150 grammes de viande, tu as ton daily value en vitamine A. C'est très simple, peut-être un peu plus. Là. Fait que pourquoi il y a autant de monde qui sont carencés? Ben, parce qu'il n'y en a pas dans les pop-tarts.
Ben, on devrait ajouter, enrichir les pop-tarts.
C'est ça.
C'est ça.
Mais ouais.
C'est ça le problème. Là, je pense que le problème est là. Oui, il y a certains. Premièrement, mesurer le statut en vitamine. Tu sais qu'il y a certains labs aux États-Unis qui le font. ça vaut ce que ça vaut, un Nutrival, tu sais, ça donne une idée. Encore là, c'est dur de mesurer la vitamine, on ne peut pas. Souvent, on va mesurer des enzymes qui sont dépendantes de ces vitamines-là pour remarquer le niveau d'activité, pour te dire, OK, comme la B12, mettons, on va dire l'acide méthylmalonique qui va jouer avec le niveau de B12 utilisé. Donc, c'est la seule manière de regarder la B12, parce que si on regarde sérum B12, c'est un peu comme... Ben, je n'ai même pas de comparaison assez poche pour te comparer ça, là, mais je veux dire, c'est...
Mais je serais surpris de pourquoi c'est poche, tu peux sûr.
Ben, c'est parce que la B12, pour être utilisée dans le sérum, ça ne sert à rien. T'sais, la B12, c'est dans la cellule qui a fait quelque chose. Fait que ce que tu as dans le sérum, même que dans certains cas, une mutation au niveau des ce qu'on appelle les transcobalamines, donc les transporteurs de cobalamine, au niveau de l'absorption et l'utilisation, peut augmenter le taux de sérum B12 vraiment haut, mais la cellule, techniquement, le corps, la personne est en anémie. Je pense que c'est TCN2. Là, si le gène TCN2 fonctionne très mal, puis la forme de cobalamine méthyl ou hydroxo n'est pas consommée, puis on prend de la cyanocobalamine cheap, ça se peut très bien que le sérum soit très haut, mais que les marqueurs semblent une anémie mégaloblastique quand même. Parce que la cellule n'est pas capable de prendre le composé dans le sérum.
Et ton argument, c'est qu'on ne peut pas vraiment mesurer les vitamines directement. Ça, je ne connais pas
ça. On peut le faire. Le problème, c'est que les tests
standards
qui sont utilisés pour ça, comme un sérum B12 ou un... L'acide folique, ils utilisent le FIBU, si je me souviens bien. Là, comme ça, ils sont capables d'avoir un marqueur de métabolisme d'acide folique. Mais sinon, les autres, zinc, magnésium, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle du red blood cell. Donc, s'il y a dans la cellule, dans l'érythrocyte, ce qui est quand même pas mal mieux qu'utiliser le sérum tant qu'à moi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a absorbé quelque part. Mais tu sais, c'est toujours que les marqueurs en général. C'est ça le problème. C'est déterminer le bon marqueur pour la bonne personne.
Ouais, mais je pense là-dessus, je ferais une petite nuance. C'est-à-dire que quand on y va avec la supplémentation, il y a une distinction entre l'utilisation et la présence. Il va y avoir des gens qui vont avoir une quantité suffisante de X vitamines minéraux, mais qu'ils ont un désordre au niveau de l'utilisation.
Exact.
Mais tu sais, ça ne sera pas au niveau de la consommation. Tu sais, il n'y aura pas une carence alimentaire nécessairement. On va dire, ils ont les apports suffisants. Le problème se situe ailleurs.
Ou le contraire, il y a des gènes qui n'utilisent. Je vois que je suis gelé, là, mais
moi. Ouais, t'es gelé sur une belle face de gars sérieux. Fait que je pense que les gens apprécient. C'est vraiment. T'as l'air intimidant un peu. T'avais failli arrêter le podcast puis tout en rentré chez nous, mais les gars, yes, c'est des excuses.
Pas pourquoi je suis encore gelé, mais bon, OK, je vais parler pareil.
Parce que c'est mieux de même, dans le fond.
C'est un ventriloque.
Il y a certaines vitamines aussi qui vont permettre, ou les formes de certaines vitamines qui vont permettre d'utiliser d'autres vitamines. Exemple, des fois, on voit, OK, telle vitamine ne se métabolise pas. OK, mais ça pourrait être une carence en d'autres sortes de composés. T'sais, on va parler, mettons, de l'acide alpha-lipoïque. Elle peut aider à booster certaines affaires, mais c'est super avancé. Là, comme c'est des gros tests aux États-Unis, des tests d'acide organique qui ont une certaine validité scientifique, même si ce n'est pas une validité scientifique absolue. C'est pour ça que je ne m'en sers pas en pratique, vraiment. Mais qu'il y a quand même certains arguments intéressants au niveau des métabolites urinaires. T'sais, ça peut donner une idée de ce qui arrive dans le corps humain, mais oui, je suis vraiment d'accord avec toi, Max, que on a tendance des fois à sursupplémenter en le sachant pas.
Ouais. Ouais. L'aspect préventif, je le comprends, mais c'est juste, c'est une grosse industrie, c'est une grosse business, puis moi, je suis pas contre ça, mais c'est juste, c'est un parti si bien là, comme tel, toute la philosophie, si on veut, ou la business derrière ça. J'avais regardé là, des stats à un moment donné. Tu avais une compagnie qui disait que leurs produits en marketing, ça favorisait la perte de poids. C'est une multivitamine quelconque. Là. Mais quand tu regardais ça, c'est parce qu'ils se basaient sur un sondage comme quoi les gens qui consommaient des multivitamines avaient une incidence d'obésité moins importante. OK, mais c'est aussi des gens qui font plus attention à leur alimentation, qui faisaient plus d'exercices, etc. Ouais. Là, la business vendait ça sur l'aspect que c'est notre multivitamine qui favorise une meilleure gestion du poids. T'sais.
Et c'est un gros problème aussi, cet argument-là, lorsqu'on essaie de trouver, puis on avait eu cette conversation-là dans notre podcast, moi puis toi, Matt, où est-ce qu'on. Je vous invite à aller le voir si vous voulez entendre plus là-dessus, ça ne sera pas le sujet. Mais tu sais, on en parlait que à un moment donné, les suppléments ont des impacts, mais l'effet reste quand même. cliniquement assez petit, tu sais. Fait que quand tu tombes avec des gens qui sont en forme, qui ont des bons marqueurs de santé, détecter un effet, ça devient quand même plus difficile, là. Même si c'est pas ça que tu essaies d'amener comme idée, je pense, là. Tu sais, l'idée que c'est dur de savoir, tu fais une intervention quelconque dans un monde, puis là, c'est là que ça va s'inscrire avec ton idée, là. On fait une intervention quelconque dans laquelle tu prends deux groupes, tu t'assures qu'ils ont des marqueurs à peu près similaires en termes d'alimentation. Un groupe que tu supplémentes en oméga 3, un groupe que tu supplémentes pas en oméga 3, puis t'en as un qui voit une différence. C'est dur en chien de te dire de contrôler l'apport alimentaire à moins que tu fasses un full feeding, tu sais, puis t'assurer que tu comparais des pommes avec des pommes, là, vraiment, là.
Ouais. Non, c'est clair que des. Tu sais, c'est dur à quantifier, c'est dur à mesurer l'impact réel des choses. Puis moi, j'irais même plus loin, même pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pour, ouais, pour les athlètes, de voir l'écart, voir la différence, c'est une job. Mais moi, je pense que même pour le commun des mortels, là, il y a tellement de variabilité dans le quotidien, d'une journée à l'autre, ça change tellement que, tu sais, moi, je pense que ça fluctue beaucoup. Puis on a aussi beaucoup la notion de journée. Fait que ce que tu consommes dans ta journée, c'est pas nécessairement représentatif de ton année.
Ouais,
fait qu'en tout cas, c'est.
Oui, parce que certaines vitamines, certains minéraux qui n'ont pas besoin d'être tout le temps pris à tous les jours. Tu sais, le corps est capable de passer une journée, disons, avec le métabolisme de la veille.
Comme quoi? Mettons concrètement, genre, comme quoi?
Ben, moi, j'avais en tête là, chez les enfants, entre autres, la vitamine D. Je pense qu'un enfant en couche qui est exposé 4 minutes au soleil, il y en a pour 3-4 jours là, de vitamine D qui est produite. Là. C'est plus efficace que ce que tu mets dans le lait, mettons. Fait que,
c'est toutes les vitamines liposolubles ont cette capacité-là, parce que le fait d'être liposoluble, souvent le gras va finir par servir de réservoir à vitamines que le corps peut réutiliser par la suite. Certaines vitamines, comme les vitamines du groupe B, la vitamine B12, on le sait, on a 2 ans de réserve de B12 pour le fonctionnement minimum. Tu sais, les vitamines B, oui, il faut t'en manger tous les jours, mais le dosage requis pour la majorité est quand même relativement faible. Ceci étant dit, les gens mangent tellement mal que des fois, ils n'en consomment pas. Tu sais, j'avais lu un article là, pas si longtemps, il est assez facile à trouver, qui disait qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont une carence en vitamine B6. Vous regarderez comment il faut de vitamine B6 pour que ça marche, mais il n'en faut pas bien bien. Ils mangent tellement mal que même si tu n'as pas bien bien là, ils n'en ont pas.
Oui.
Fait que tu fais comme, OK, est-ce que tu as des supplémentés? Mais techniquement, non. S'ils mangeaient un peu plus de vrais aliments, il y en aurait. Mais encore là, tu regardes la B6, bon, qu'est-ce qui déplique la B6? Ben, manque de sommeil, trop de stress, problème avec l'insuline, problème à force de le corps s'est compensé pour faire du GABA. Parce que le monde oublie ça, là, c'est que pour faire des neurotransmetteurs, le corps doit prendre des cofacteurs. Donc, il doit prendre de la vitamine, doit prendre certains minéraux, doit prendre. Mais le problème, c'est que si tu es toujours en train d'essayer de compenser des situations, ton utilisation augmente. Tu sais, les gens, ce qui a été calculé comme la base, là, ça a été dans du monde dans les années 70, parce que les RDA étaient basés dans les années 70. Dans leur vie tous les jours, normalement, c'est sur quoi? 1000 personnes, je pense que c'était fait, cette affaire-là. Un peu comme les prises de sang. 1000 personnes. Fait qu'ils ont déterminé, ça c'est le haut, ça c'est le bas. Fait que, tu sais, c'est certain que, oui, pour une partie de la population, s'ils sont là-dessus, ça va être correct. Après ça, tu as le paquet de mutations génétiques qui sont encore plus présentes maintenant, qui n'étaient pas présentes avant à cause de la mixité au niveau des ethnies. Parce qu'il y a certaines ethnies qui étaient très, très spécifiques avec certaines carences, d'autres avec certaines carences. Mais maintenant, comme pas mal tout se promène, ben, tu sais, c'était drôle cette semaine, il y avait. Tu connais Alexandre Gagnon-Bouchard?
Ben oui. Il doit avoir un training dans lui, il y avait une spécialiste
sur son podcast. Puis elle spécialise en cholestérol. Elle fait sa maîtrise en rapport avec l'hypercholestérolémie familiale. Puis dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, à cause, ben, on va dire gentiment, la consanguinité, à cause du bassin de population, je ne dis pas que vous êtes consanguin, là, mais l'expression de l'hypercholestérolie familiale est beaucoup plus haute au Saguenay qu'en général.
Ne m'attendez pas à ce qu'on parle de consanguinité aujourd'hui, m'a t'avoué. Ça montre mes attentes un peu. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer.
On a clairement créé des populations qui sont plus à risque d'avoir des carences qui ne matchent pas ensemble.
OK.
T'sais, parce que ça, en nutrigenomique ou en génétique, c'est pas ma spécialité, mais ils se sont rendus compte que normalement, quand on regarde une population qui est relativement isolée, ils vont exprimer des locus, donc des groupes de gènes relativement spécifiques qui vont démontrer, disons, une dysfonction, une prédisposition. Après ça, le défaut, c'est mixé. C'est que là, on se ramasse avec des manifestations génétiques avec d'autres qui s'expriment quand même. Dans certains cas, là, ça peut être un pas pire problème. Tu sais, ça, c'est des cas. Vous allez dire, oui, ça représente 1% de la population. Je suis vraiment d'accord. Mais il y a d'autres manifestations qui sont quand même plus répandues et plus problématiques.
Maxime, t'es-tu capable de garder ton idée une seconde? Ça sera pas long. Avant qu'on continue, tout le monde, on est monté à quasiment 25 personnes sur le live tantôt, puis on a juste 5 pouces j'aime cœur. Et c'était pas en envoyé, ça envoie un message à l'algorithme Facebook disant que le contenu est pertinent. Ouais, mais on a genre 25 personnes.
Max en vaut moins 10.
C'est ça, envoyé. Ouais, envoyé. Puis il a quand même mis son compte de Pac-Man. Ça, ça
mérite.
Si vous voulez que Maxime mette des vestons funky à toutes nos podcasts, n'hésitez pas à envoyer des pouces, des j'aime, des cœurs. On va le forcer à le faire à chaque fois. Pour vrai, ça va nous rendre un fier service. Envoie un message à l'algorithme Facebook disant que le contenu est pertinent. N'hésitez pas à envoyer du stock. Merci! Merci tout le monde. Super pertinent. Avant qu'on continue, Maxime, qu'est-ce que tu allais dire sur...
C'était plus, dans le fond, pour passer de... Tu sais, il y a l'aspect populationnel, tu sais, comme on parlait, que bon, il y a les besoins de l'ensemble de la population, qu'on résume ça à une moyenne de besoins. Puis, tu sais, moi, je voulais amener ça aussi sur l'aspect qu'on tombe beaucoup, surtout dans le milieu de l'entraînement, de la supplémentation super spécifique. Tu sais, tu parlais des antioxydants. Tu sais, on va isoler une variable. Puis, tu sais, moi, j'étais tombé à un moment donné sur une étude, c'est les oméga-3 puis l'hypertrophie. Tu sais, fait que là, ça disait que si tu consommais des oméga-3, ça stimulait l'hypertrophie.
Ouais, juste une chose, comme je suis plus dans un stade d'intervieweur en ce moment, j'aimerais ça pour garder une neutralité, qu'à chaque fois, tu me fasses en faisant référence comme étant votre honneur. Comme ça, je pense que ça va garder un certain sentiment de neutralité.
T'as-tu le titre ou quelque chose?
Ouais, j'ai en fait, théoriquement, c'est maître. Mon titre, by the way. Pas mal plus badass que docteur. Mais avant qu'on. Ouais, ton point est vraiment intéressant. C'est l'idée que. Continue ton point, excuse-moi.
Tu sais, fait que là, tu t'en vas, tu dis, ah ben, OK, les oméga-3, ça stimule l'hypertrophie. Mais pour bien des gens, ça s'arrête là. Ah, oméga-3 stimule l'hypertrophie, m'en prendre des oméga-3. Ben, moi, je sais comment ça fait qu'un oméga-3 va stimuler l'hypertrophie, tu sais. Puis là, quand tu fouilles, tu dis, ah, OK, la référence, ben, c'est chez les personnes âgées. Puis la supplémentation en oméga-3, ça réduit, ça augmentait la synthèse des protéines post-prandiales, après un repas. Chez les jeunes, ça changeait rien. Fait que là, t'es comme, OK, fait que. Ça vaut-tu la peine que je prenne des suppléments d'oméga-3 pour ça, en pensant que, écoute, j'ai le chest qui va gonfler si j'en prends? Ben, je suis pas sûr, tu sais. Fait que ça vient à peu près inutile, tu sais, dans le fond, de consommer ça pour ça, mais les gens vont le faire systématiquement.
Ça vaut-tu la peine de consommer des oméga-3 pour prendre du chest? Votre honneur. Mais tu sais, le point étant, ton argument est super important dans le sens que on a tendance, puis tu sais, il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que le monde ne comprenne pas que les différentes variantes d'études chez des populations, ça peut impacter beaucoup d'affaires, genre. Tu sais, que t'as bien des affaires qui vont marcher chez des gens qui ont le diabète, qui ne marcheront pas, c'est la glycémie de gens qui sont pas symptomatiques, ça c'est clair. Mais tu sais, il y a un certain biais avec le type d'études, dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de pathologiques où il y a beaucoup, beaucoup de symptomatiques dans la littérature, à cause que c'est plus ça qui est financé, right? Fait que, tu sais, t'arrives à un espèce d'impact où est-ce que de supplémenter en oméga-3 va favoriser l'hypertrophie chez une sous-strate de la population? Il n'y a pas grand monde qui vont vouloir payer pour ça. Fait que, tu sais, ces études-là, ils sont pas tant présentes, typiquement, là, tu sais.
Non, ça, puis par expérience, c'est assez dur d'avoir du financement pour ça, à moins que tu adresses une problématique sexy, là, puis
ben oui. Là.
Fait que, tu sais, déjà, moi, quand je faisais mon doc, c'était la ménopause qui était comme le hot topic, là. Tu peux avoir de l'argent pour n'importe quoi qui s'est ajouté à la ménopause dans ton projet. Puis, si tu regardes là, s'il n'y en a plus, le projet qui sort de sa ménopause, c'est le train passé, c'est fini, là. Mm-hmm. Puis, la problématique est encore là. Mais là, c'est rentré autre chose, tu sais.
Dans mon temps, c'était la lombalgie, moi. Je veux dire, si tu travaillais en lombalgie dans le temps que j'étais en recherche, tu avais du financement qui pleuvait, là. C'était le sujet, là. C'était hot dans ce temps-là. Quelque chose à dire sur ça, Matt?
Ben non. C'est sûr que faut faire attention à ce qu'on voit des études. T'sais, souvent, je me fais dire ça, justement. T'sais, moi, je formule les produits, les suppléments alimentaires. Fait qu'après ça, c'est là que tu te heurtes à Santé Canada et que tu peux pas dire n'importe quoi. T'sais, c'est parce que ça a été réussi, l'étude, chez... une cohorte de nains albinos de l'Équateur de Nouvelle-Guinée, que ça va marcher dans la population générale. Fait que, tu sais, ça, ils sont quand même stiff là-dessus, Santé Canada. même si souvent je ne suis pas trop d'accord avec certaines choses qui ne passent pas. Mais fait que c'est toujours bon de lire l'étude. T'sais, en fait, c'est pour ça que dans le programme de Naturo chez Insturité, il y a au moins un petit module comment lire une étude, comment regarder l'étude, pas la comprendre, parce que ça, je ne suis pas statisticien, je ne suis pas spécialiste sur la lecture d'études, ce n'est pas mon champ d'études. T'sais, souvent même que j'ai cœur Alex pour qu'il lise une étude et qu'il me dise si ça fait du sens. Mais surtout quand il y a bien de la statistique dedans, parce que quand on est, ça ne tente pas de faire ça.
Eh bien, ça, by the way, là, ça vient tellement un double seuil à un moment donné. Tu sais, moi, quand j'étais en recherche. Ah, c'était fou. Moi, quand j'étais en recherche, j'étais hot, là. Je connaissais ça, les statistiques. Puis sur ma petite team de recherche. Salut, Félix-Antoine, je sais pas si ça va bien. J'étais comme la petite référence à l'interne de stats, là. Puis j'ai fait des cours. À maîtrise, j'ai fait des cours de stats au niveau doctorat. Fait que j'ai fait les cours les plus avancés de statistiques qui se donnent en biostatistique et QTR. Fait que j'étais hot, là. Puis après ça, tu commences à traîner avec des statisticiens, puis du monde de même, puis t'es comme tabarnak. Ok, non, ça, hey, ça peut vraiment, vraiment aller loin. Tu sais, je suis quand même pas pire en stats, là. Mais hey, c'est pas dur d'être misérable là, quand tu connais ce qui se fait là-dedans. Là. Tu sais, juste, on en avait parlé, moi, puis toi, là. Tu sais, cette étude-là était encore sur mon bureau. L'étude qui essaie de modéliser une perte de gras avec des chiffres, là.
Ouais.
Genre, je l'ouvre, puis je regarde des chiffres, puis je suis comme. Mais je sais même pas c'est quoi ça, genre.
Ouais. C'est là, tu pourrais me dire que c'est la trajectoire de la navette spatiale pour se rendre sur Mars.
Ouais, c'est ça.
Puis je dirais, ah, OK, là, je comprends.
Ouais, c'est ça.
Ah non, c'est pour la perte de poids.
Mais tu sais, il se passe de quoi? Il se passe ce phénomène-là quand le monde va en pêche sur PubMed un peu aussi, où est-ce qu'ils lisent l'abstract, ils lisent le résumé. Puis tu sais, comprendre les méthodologies, c'est difficile. Comprendre les statistiques, c'est encore pire. À moins que tu fasses de la petite régression, des petites affaires de RCT, des petits trucs pas compliqué, des tests T, bon Dieu, là, c'est pas très compliqué à comprendre, là. Mais ça peut aller vraiment, vraiment plus loin, là, tu sais.
Ouais. Puis, tu sais, une autre affaire, là, juste là-dessus, tu sais, moi, ça m'intéresse assez souvent de lire l'abstract, lire l'abrégé, vite, je regarde la conclusion, OK, bon, s'il dit ça, l'article m'intéresse, je vais aller le lire. Puis, quand je lis la méthodologie, je lis les résultats, puis je fais comme, attends, là, j'ai du mal à comprendre leur conclusion.
Ouais.
Je me retourne lire, puis, ben, ouais, non, tu peux. C'est pas ça du tout que l'article, mais vraiment, tu sais, je ne sais pas, ça a été publié. Ça. Non, effectivement, il conclut quelque chose que c'est pas ça que leurs données disent.
Mm-hmm. Puis c'est
quand qu'on pense.
Puis c'est un autre problème, parce que les deux, on a écrit des abstracts. Là. Écrire des résumés d'études, c'est de la merde. C'est de la charogne. Il faut que tu rentres en genre 150 mots, fucking 6 mois de travail. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu dénatures tout le contexte. T'enlèves tout, genre juste pour que ça rentre, parce que c'est ça le critère du journal. Puis là, tu sais, tu te ramasses à avoir quelque chose qui est tellement dénaturé qui, dans le fond, veut plus vraiment dire grand-chose, puis qui est dur à aligner dans la direction que tu veux que le monde le comprenne, tu sais. Puis c'est un peu ça, je pense, le point que tu essaies de souligner avec tout ça, Matt, dans le sens que, tu sais, faut aller plus loin sur une étude, là.
Ben, tu sais, si t'es pas capable d'avoir l'étude, comme là, en ce moment, tu sais, Sci-Hub a beaucoup de la difficulté, là, le site de Russian Hacking, là, de la difficulté à popper des études, là, et je pense que les compagnies se sont rendues compte qu'ils pouvaient bloquer. Mais bon, tu sais, fait que là, ce temps-ci, là, on est bien pogné souvent qu'on essaie de. Je dis on, parce que la personne avec qui j'étudie aussi, elle n'a pas un doctorat et un accès universitaire, elle a juste une maîtrise. Fait qu'on a de la difficulté à souvent sortir certaines études. Fait qu'on est obligé de regarder le sujet de l'étude puis voir ce qui a été fait.
Mm-hmm.
Tu sais, on voit l'abstract, là, des fois, on peut dire OK, oui, ça ressemble à ce que j'ai déjà lu sur le sujet. Tu sais, tantôt, exemple, on lisait un article dans. Endocrine Abstract, dans un journal endocrinien qu'on a sur le signalement de la glucose independent polypeptide relié aux acides gras chaîne courte et aux free fatty acid receptors de type 3, 2 et 3. Bon, peu importe. Fait que tu sais, on essaie de voir, ça a déjà été étudié, mais eux autres, il y avait comme une nouvelle patente. Je sais comment, ça a l'air de fun. L'article n'est pas disponible, on n'est pas capable de le sortir. Fait qu'on peut regarder, parce que les études existent depuis 2011 sur ce sujet-là, puis on se dit, bon, on va regarder s'il y a d'autres mondes qui ont étudié relativement le même abstract pour arriver à comprendre ce qu'eux autres voulaient arriver à, là, comme solution.
Sinon, là, l'acheter, ça peut venir cher. Là, moi, je regardais juste un article, justement, là, c'est vitamines, tout le kit, qui a l'air super intéressant. Ben, pour avoir accès, c'est 56$ US.
C'est ça.
Ça, c'est basé sur l'abstract, là, tu sais. Fait que je me dis, ouais, ça vaut-tu vraiment la peine de mettre 56$ US là-dessus? Je vais-tu être déçu? Je vais, tu sais. Fait que, non, ça, c'est une problématique, là, la démocratisation de l'accès à la science, là. C'est clair.
Puis il se passe quelque chose d'encore pire, que ce phénomène-là est entretenu. puis ne disparaîtra probablement pas. Tu sais, c'est les coûts pour publier dans Nature sont rendus combien? Je pense que c'est 5 000 $ US juste faire réviser ton article. Non, c'est 2 000 $. 2 000 $ US juste envoyer une soumission à Nature.
Mais ça, je pense que ça va casser. Là,
c'est une question. Mais ça n'a pas le choix de casser, là, c'est ridicule.
Tu regardes la plupart là, des articles après 2017-2018, il y en a un très haut pourcentage qui est accessible à tous. Là, beaucoup plus. Là. Moi, je te dirais, là, c'est entre 2000 et 2012, là, sortir des articles. Puis avant ça, souvent, ils ne sont pas disponibles pour tout, mais entre 2000-2012, trouver des articles gratuits. Là,
c'est plus dur, hein.
C'est laborieux, là. Mais là, ça s'en vient plus, là. Okay. Ça se démocratise un petit peu plus.
On est en train de se perdre un peu, puis c'est moi qui ai amené cette parenthèse-là. Fait que désolé, c'est 100% ma faute. Mais avant qu'on rembarque dans le sujet, est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez relancer sur... Ben, premièrement, tout le monde qui écoute, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas. On sera pas sur le live forever, là. En fait, on va refaire ça jusqu'à peut-être 15 heures et quelques. Fait que jamais vous avez des questions sur n'importe quoi qui a été dit. N'hésitez pas à les publier, c'est un plaisir d'avoir de vos nouvelles. S'il y a quoi que ce soit qu'on peut parler, vous voulez qu'on jase, n'hésitez pas. Sinon, moi, je vais probablement tomber dans les questions un peu plus spécifiques qu'on avait, qui, je pense, vont être intéressantes aussi. On a parlé beaucoup des concepts généraux. Je pense que les arguments qui ont été soulevés sont quand même intéressants des deux côtés. Pour tomber un peu plus dans le concret, on va parler de suppléments, on va parler d'un peu, on l'a amené un peu par la bande, là, mais pour vraiment relancer pleinement cette idée-là, l'idée d'avoir des stacks de base pour la santé, pour supplémenter pour la santé. On entend souvent parler de vitamine D, on entend souvent parler de magnésium, de multivitamines, ces affaires-là. L'idée d'avoir un petit stack de base, t'en penses quoi, Matt?
Ben, je suis assez d'accord avec l'idée. Tu sais, si mettons, on regarde l'alimentation nord-américaine, puis même pas nord-américaine, le monde, tu sais, ce qu'on est habitué de manger, même quand on mange relativement bien. Là. La dernière fois, je me suis amusé, dans un article, j'ai pris une bonne alimentation, de 1500 calories pour une femme, un apport calorique recommandé standard selon Santé Canada, et j'ai mis un apport protéiné beaucoup plus haut que ce que Santé Canada recommande, parce que sinon, il y a des affaires que tu ne réussis jamais à aller chercher. Puis j'ai regardé après ça, qu'est-ce qui était carencé en vitamines et minéraux. Je me dis, bon, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal qui ne sont pas à 32%, mais il n'y avait pas grand-chose à part, exemple, les vitamines du groupe B et la vitamine C qui était à 100%. Mm-hmm. Fait que tu fais comme bon. Puis ça, c'est une très bonne alimentation. Il n'y a pas grand monde qui mange ça quand il rentre dans le bureau d'un spécialiste. Là. Pas moi. Moi, je ne suis pas un spécialiste, je suis un chaman. Mais là, je me disais, bon, OK, qu'est-ce qui a l'air le pire? C'est sûr que l'oméga 3, les gens ne mangent pas de poisson. Donc, on n'est pas au Québec, on n'est pas élevé sur le poisson. Est-ce que de consommer des oméga 3 à dose physiologique, pas faire comme un hostie tata, prendre des cuillères à table de poisson? Ça peut être intéressant.
Mais si on regarde... Je trouve ça drôle que tu me parles de ça. Un des trucs qui a le plus de misère à mourir assis dans l'industrie de l'entraînement, c'est tous les trucs de Charles Poliquin. On dirait que le monde sont accrochés religieusement à ce que Charles Poliquin fait. Puis son hostie de méga dosage en oméga 3, là. T'sais, on dirait que ça c'est encore dans la culture. Là,
ah, toutes les fois que je peux, moi, je tape dessus comme petit bâton.
Pendant qu'il est mort, je tape dedans pendant qu'il est au sol.
C'est sûr que oméga 3, vitamine D, magnésium, c'est ça. T'sais, pourquoi? Magnésium, ben, peu importe. Là, tu ne me convaincras pas que quelqu'un n'a pas d'effet en donnant du magnésium. Ça fait 10 ans que je fais du bureau. Ça fait 10 ans que je recommande du magnésium de bonne qualité. Puis ça fait 10 ans que quand la personne ne sait même pas ce que ça fait du magnésium, puis ça marche. Fait que tu sais, ça, c'est mon effet placebo. Souvent, le monde ne leur dit pas ce que c'est supposé faire. Puis comme le monde ne vont pas checker, ils vont dire « Ah, depuis 2-3 semaines, je suis moins de stress, je dors un peu mieux. » C'est pas mal le concept d'activer le système nerveux parasympathique, la sérotonine puis le GABA. Mm-hmm. Donc, go! T'sais. Est-ce que là, encore là, on donne 12 capsules par jour? Ben non. On recommande à une. Commence à une. On verra. T'sais. Mais c'est tout de l'utiliser à un dosage intelligent. Vitamine D, tu le disais tantôt, l'exposition au soleil. Je suis très d'accord. Je ne connais pas beaucoup de monde qui vont beaucoup au soleil. Là, on était chanceux, on a eu la pandémie, fait qu'on avait le temps. Mais sinon, en normal, il y a très peu de gens qui ont l'opportunité d'aller au soleil dans le temps où le soleil est intéressant. Puis au Québec, on a quand même quoi, deux jours et quart d'été. Fait que faut faire attention.
Mais pas c'était à Montréal, mon Dieu. Vous autres, vous roulez sur du 25 degrés en ce moment. Genre. Nous autres, il fait genre 5 degrés.
On a deux journées à 25. On a deux journées.
Hein. Une journée à 25 degrés à Trois-Rivières, je le confirme.
Fait que c'est ça qui est intéressant. Pour la vitamine D, après ça, c'est sûr qu'utiliser une dose, quand tu regardes les études, la vitamine D, ce qui est compliqué, c'est que son métabolisme est complexe. vraiment complexe. Parce que normalement, l'humain devrait en avoir en saturation à cause du soleil. Tu sais, le 10 000 unités que tu peux métaboliser avec le soleil, si tout le monde allait dehors tous les jours, on aurait notre saturation de vitamine D assez rapidement. Puis les différentes enzymes qui s'occupent de métaboliser, donc les cytochromes, les 24 hydroxylases et les 25 hydroxylases sont utilisés pour métaboliser ou désactiver ou activer la vitamine D, n'auraient pas de problème. Là, actuellement, il y a des gens qui ne vont pas dehors. On sait qu'il faut du magnésium pour activer les hydroxylases de vitamine D. Déjà, de base, ça va super bien. Et après ça, résistance à l'insuline, donc l'inflammation, le cortisol, ont tendance à activer le pathway 24 hydroxylase, donc désactivation de la vitamine D. C'est un mécanisme normal parce que ça veut dire qu'au niveau de l'immunomodulation, ça s'applique, mais dans certains cas, on le sait que le stress, comparé à un stress ancestral, est loin d'être le même maintenant. Fait qu'on a une maladaptation de ce mécanisme-là que ce qui était positif à la base ne l'est plus vraiment de nos jours.
On va répondre à vos questions dans deux petites minutes, tout le monde. Ça sera vraiment pas long. Avant, Maxime, dans le fond, juste faire un petit résumé sur ta position, juste m'assurer que j'ai bien compris avant de lancer la balle à Maxime. Ce que tu dis, c'est le mode de vie puis les recommandations sur lesquelles on se base avant sont peut-être. Tu dis, dans le fond, les recommandations sont peut-être pas tant appropriées à ce qu'ils sont, puis il se passe une espèce de cercle vicieux entre les différents nutriments, dans le fond. Fait que tu aurais, mettons, une espèce de carence ici, ça impacterait une autre affaire. C'est ça ton point, en ce moment, ce que je comprends.
Le point, c'est qu'il y a certains mécanismes du corps humain qui sont hyper bien adaptés à la vie, là, 5000 ans.
OK, ouais.
Donc, certaines enzymes qui n'ont pas vraiment changé leur contexte évolutif, que maintenant, si on regarde leur activité, là, on parle de la vitamine D parce que c'est le plus compliqué, il y a une grosse dissonance entre ce que la science va montrer, la supplémentation, puis après ça, ce que le monde va essayer de faire avec la vitamine D. Mm-hmm. Quand tu as un effet thérapeutique avec la vitamine D, il ne faut pas que tu oublies que, Caroline, ce n'est pas du ciprofloxacin que tu utilises, là, c'est une vitamine. Fait que ça se peut que ça ne fasse pas d'effet là. On l'a vu avec la COVID. Là, mais bon.
Mais tu sais, ça, c'est important aussi. On dirait que le monde s'attend à commencer à prendre la poupa de ce type, puis là, que tout décolle, puis que la vie commence à être belle. Puis tu sais, ça, c'est vraiment intéressant comme point. Maxime, quelque chose à rajouter là-dessus?
Non, pas vraiment. Pas vraiment.
Good. Ben, c'est parfait parce qu'on a des questions, puis on commence à manquer de temps. Mais qu'on a des bonnes questions, on va commencer là-dedans. Première chose que je pense qui va être intéressant, qui vient d'Andrés. Salut Andrés, merci de ta question. Est-ce que les suppléments doivent augmenter avec l'âge ainsi si on est plus actif ou inactif? Mathieu? Qu'est-ce que tu as dit?
Si tu es plus actif, tu utilises plus de ressources. Donc, il y a certaines vitamines qui pourraient être requises de plus. On parle souvent des vitamines du groupe B. On parle souvent du magnésium et du zinc. Et du fer un peu, surtout chez peut-être la femme, peut-être plus de besoins, là, mais ça dépend toujours du métabolisme. C'est ça, c'est. Mais c'est super complexe de répondre à la question. Parce que oui, mais.
Docteur, ouais, c'est ça, tu sais, mettons, si tu regardes le vieillissement, tu vas avoir des vitamines qui s'assimilent dans certains cas mieux, plus vieux, puis moins bien, plus vieux. Fait que tu sais, ça change, mais c'est clair que l'âge va avoir un effet sur tes apports. La tendance, habituellement, ça se reflète là, dans les apports recommandés. Là, tu vois les courbes qui changent avec les tranches d'âge un petit peu. Ça peut donner une idée là, un peu du changement en termes de besoins. Besoins, ça peut être parce que tu l'assimiles mieux ou parce que tu l'assimiles moins bien ou parce que tu en as moins besoin. Fait que, tu sais, c'est des facteurs qui jouent. Le niveau d'activité physique, puis, tu sais, mettons chez les gens très actifs, moi, j'ai toujours discuté avec ça parce que à la base, c'est dur de déterminer c'est quoi quelqu'un d'actif.
Ouais.
Puis quelqu'un qui est inactif, c'est super difficile. Fait que des fois, on va dire, on va avoir des gens qui s'entraînent. Est-ce qu'ils ont des besoins plus importants? Mais ils ne sont pas nécessairement plus actifs que quelqu'un qui ne s'entraîne pas. Fait que, c'est des éléments qui sont super importants à déterminer, tu sais, parce que on a regardé, mettons, dans certains cas, on supplémente des athlètes avec différentes vitamines minéraux, il n'y a aucune amélioration de la condition. Dans d'autres cas, il y a une amélioration des performances. Tu sais, c'est très variable. Puis quand on observe ce genre de variabilité-là, bien souvent, c'est qu'il y a des éléments qu'on n'a pas considérés qui ont un impact. Fait que, tu sais, quelqu'un d'actif, moi, honnêtement, j'ai de la misère à répondre à ça, de dire c'est quoi quelqu'un d'actif? Tu sais, c'est pas simple. Puis actif, tu sais, c'est un haltérophile qui se prépare pour les Olympiques. C'est-tu quelqu'un qui est actif? Si c'est un marathonien qui se prépare pour les Olympiques, c'est-tu quelqu'un d'actif? Bien, ont-tu les mêmes besoins nutritionnels? Ce n'est pas les mêmes processus métaboliques qui vont être surchargés. Des vitamines minéraux, il y a aussi une affaire qui est bien sacrante, c'est qu'il y en a plusieurs là-dedans qui se recyclent. C'est pas genre tu l'utilises, ça se jette, ça va prendre une autre forme, ça va être recyclé, ça revient, c'est réutilisé. Fait que tu sais, ça c'est pas évident. C'est pas évident à évaluer.
Mais ton point est vraiment, vraiment intéressant. On a tendance à faire ça beaucoup en recherche, à classer le monde selon actif et inactif. T'sais, actif, c'est souvent qui pratique un sport quelconque ou fait 150 minutes d'activité physique, mais c'est de mon point de vue très, très limité, puis on pourrait parler de ça. La majorité de la clientèle des gens qui écoutent en ce moment viennent du monde de l'entraînement, sont intéressés par le monde d'entraînement, sont intéressés par la supplémentation, toutes ces affaires-là. Ça vient probablement plus du monde gym, entre guillemets, qui est vraiment plus cardiovasculaire ou autre sport. Puis tu sais, l'écrasante majorité, de mon humble avis, ça serait discutable, l'écrasante majorité des gens qui s'entraînent dans une salle d'entraînement sont sédentaires. En grande majorité, là. À moins que tu habites à Montréal ou tu fais quoi que ce soit, je pense, là, tu sais. Puis même à Montréal.
Montréal, on est bon, là.
Ouais, c'est ça. Ben, je pense, je veux dire, tu sais, moi, j'ai déjà habité à Montréal. By the way, j'ai déjà été l'un d'entre vous. Puis après ça, je me suis rendu compte que je suis mieux puis que je mérite mieux. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà été une fille de Montréal puis longue histoire, ça va, c'est pas bien fini. Mais tu sais, mais le fait étant que c'est beaucoup, beaucoup plus facile d'être super actif à Montréal. C'est ça mon point, là. Qu'être actif à Trois-Rivières, où est-ce que, tu sais, l'autobus, ça se rend pas chez nous. Là. Faut que je marche peut-être 20 minutes pour aller pogner le bus, là, tu sais. Fait que ça, forcément, tu sais, ton activité physique va être pas mal plus grande dans tes déplacements si t'as un mode de vie actif que ton entraînement au gym, tu sais. C'est ça le point, là. Fait que, tu sais, la catégorisation active juste parce que tu t'entraînes ou juste parce que tu bouges, il y a un gros problème avec ça, je pense.
C'est ce qui est fait maintenant un peu plus dans les études, c'est qu'ils catégorisent en fonction de sport ou d'activité précise. Tu sais, une étude, par exemple, supplémentation à faire chez les athlètes en ski de fond. Tu sais, fait que là, bon, t'as une idée, là. Tu sais, des athlètes niveau international en ski de fond, supplémentation, qu'est-ce que ça donne? Mm-hmm. Tu sais, ça te situe, si toi, tu fais du bodybuilding, peut-être que ça s'applique pas, là, tu sais.
Puis c'est ça le problème, c'est que, tu sais, lorsqu'on tombe dans des études ou des populations précises, puis moi, j'étais, puis ça, j'en ai parlé quand même assez souvent, j'ai une opinion relativement favorable du jeûne intermittent, à cause que je me lève le matin, j'ai pas faim, puis je veux travailler. C'est juste ça, mon point. Je veux pas tomber dans les métabolismes d'hacking, de rien, puis tout, c'est juste, ça fit avec ce que je veux faire dans une journée, tu sais. Puis les gens avec qui j'ai eu les conversations les plus virulentes, genre les gens avec qui j'ai perdu le plus patience, c'est jeûne intermittent Québec. Juste à cause que les gars, ils partageaient des études puis ils partageaient des hosties de niaiseries qui sont faites chez des populations qui ont pas rapport. Puis là, j'étais comme, tu peux pas faire ça. Ça, c'est au mieux de la mauvaise science. Au mieux, t'es un fucking menteur, man. Tu sais? Puis j'étais comme, ça marche pas. Puis les gens qui carochent des études qui sont faites sur des populations juste parce qu'ils comprennent pas, justement, que c'est pas parce que ça marche sur un skieur de fond que ça va marcher sur un culturiste. Puis ça, c'est un point, je pense, qui est important de souligner. Puis en tout cas, bref. Fait que ça, c'est un truc qui est... Est-ce qu'on avait pas mal fait le tour là-dessus avant que je m'énerve ces gars de jeûne intermittent Québec?
Oui.
Je pense que ça va, ouais. Parfait, ça. Salut les gars, j'ai eu un échantillon sur plusieurs semaines. J'ai eu une échantillon sur plusieurs semaines avec une prise de Synermag 4 le soir. J'ai toujours des nuits de sommeil plus mouvementées et dérangées. Vous en pensez quoi? Je pense que ça s'inscrit beaucoup dans ce que Mathieu disait avec supplémenté en magnésium tantôt. Fait que je te lancerai la balle en premier, là.
Ben, c'est sûr que là, je sais pas pourquoi, qui t'a recommandé 4 Synermag avant de te coucher, parce que clairement, c'est trop de magnésium. Faut savoir que les transporteurs de magnésium au niveau de l'intestin ont un effet de plus tempérant, moins ils en absorbent. Félicitations. Et après ça, il y a des acides aminés comme de la glycine, et il y a de l'acide malique dans le composé. Fait que tu peux avoir des réactions au niveau, on appelle ça une réaction paradoxale pour être simple, mais c'est pas une réaction paradoxale. C'est que le magnésium et la glycine peuvent aussi à certaines doses, causer un état d'éveil sur l'interférence avec le récepteur à GABA, finalement, et la glycine. Compliqué. Compliqué, je ne pourrais pas l'expliquer mieux que ça, là, parce que c'est vraiment de la biochimie et c'est trop complexe pour ce que j'explique ça. Mais que c'est vraiment pas recommandé de prendre des mégadoses de magnésium directement d'un coup, premièrement, pour l'assimilation. Sépare ta dose si tu veux continuer à en prendre 4, mais sépare-les puis commence à en prendre plus tôt. Moi, je te conseillerais de descendre à 3 d'en prendre une au souper, deux avant de te coucher.
C'est vrai, cette idée-là de la dose encore est à considérer. C'est un de nos points qu'on avait amené dans le sens que tu sais, le monde prenne des suppléments sans se poser de questions. Là. Je pense que l'idée de connaître la dose, de connaître chez qui, c'est un point qui est important.
Ouais, puis comme Mathieu disait, des fois, c'est assez bon, relativement fréquent, là, mais tu sais, avec des vitamines, des minéraux, c'est souvent une réponse en U qu'on va avoir. c'est un effet bénéfique à une dose X. La dose change, l'effet n'est plus le même, puis la dose elle change encore, tu as presque l'effet contraire. Tu sais. Mm-hmm. Ça aussi, il faut faire attention là, avec ça. Puis, moi, dans le cas de le trouble du sommeil, je vais regarder bien plus. Oui, c'est correct de supplémenter, mais quelle heure qu'il se couche, quelle heure qu'il se lève, qu'est-ce qu'il fait avant de se coucher? C'est toutes des choses. J'avais en tête là, quelqu'un qui prenait des somnifères pour dormir. Puis, tu sais, la personne, tu regardes le mode de vie, tu dis, écoute, c'est pas un problème de somnifère pour dormir, là, c'est un problème de mode de vie. Là.
Yeah, ouais.
C'est change ça, là. Tu sais, t'as pas besoin de somnifère, t'as une vie qui est de la scrap, là. Tu sais, c'est un problème du sommeil, là. Tu sais, change ça, là, tu sais.
Spécification sur la question de Félix-Antoine, c'est 2 synermagues au souper puis 2 avant au dodo. Je sais pas si ça change de quoi pour toi, Matt.
Ben, c'est une meilleure dose, c'est sûr. C'est beaucoup de synermagues, pour vrai. Ça fait 400 mg de magnésium élémentaire. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, pourquoi il a commencé à cette dose-là. Moi, je n'aurais pas recommandé ça.
Tu aurais recommandé quoi, toi?
Ben, normalement, j'aurais... mettons qu'on stipule que Félix-Antoine, que tu connais, j'imagine que c'est un gars athlétique. Donc, 2. Parce qu'à 200 mg, normalement, c'est assez de magnésium. Mais comme disait Maxime, qu'est-ce qu'il fait, Félix-Antoine? T'sais, s'il dort moins bien avec le magnésium, parce que c'est clairement ça qu'il disait dans sa question... Donc, d'autres choses. C'est pas le magnésium, c'est pas un somnifère. Ça ne sert pas à ça dans la vie non plus. Il faut regarder toute l'habitude de vie au complet.
Mm-hmm. Et tu sais, je pense que ça, c'est un truc qu'on ne parlera pas nécessairement de ça parce qu'on a d'autres questions à checker ensemble. Mais tu sais, l'idée que la routine du sommeil a beaucoup, beaucoup d'impact. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, on écoutait la TV, on fermait la TV et on allait. Hey, by the way, je me suis acheté une nouvelle console qui n'a pas de blue light blocker. Là. Hey, on se pétait les yeux avec ces affaires-là avant, mon Dieu, c'est l'enfer. Je me suis couché et j'avais l'impression d'avoir les yeux qui brûlent encore. Mais tu sais, le point étant, avant, on a comme commencé à reparler beaucoup, beaucoup de l'idée d'avoir une routine, de couper les écrans puis toute l'importance que ça peut avoir. Là. Fait que tu sais, je pense que c'est plus ça le point que vous essayez d'amener, c'est de watcher d'autres habitudes de vie en général. J'espère que ça répond à tes questions, Félix-Antoine. Fait que dans le fond, coupe ta dose puis check ce que tu fais dans ta journée. C'est pas mal ça. Les vitamines, exemple vitamine D qui ont. La question de Pierre Samuel. Salut Pierre Samuel. Les vitamines, exemple vitamine D qui ont effet sur le système immunitaire lorsqu'on tombe malade, est-ce qu'on augmente les dosages? Question très pertinente avec le contexte de COVID en ce moment, je pense.
Mm-hmm. Non. Moi, non. Je n'augmenterai pas la dose. Je mégadoserai jamais la vitamine D parce que tu tombes malade.
OK. Dr. Kin, Maxime?
Ben, même chose. Moi, je suis rarement un partisan des mégadoses. Là. Ben, souvent, puis surtout dans le cas de tu sais, Mathieu, un petit peu comme tu disais, simplement, c'est pas quelque chose que tu prends, tu as un effet tout de suite là, dans la majorité des cas, surtout dans ce qui a trait des vitamines. Si ça fait 20 ans que tu as des carences en vitamine D, il n'y a probablement pas juste ça qu'il y a comme problème. Puis le fait de supplémenter en vitamine D, tout d'un coup, c'est peu probable que là, ça fasse en sorte que tu as un système immunitaire qui est impeccable et qui est capable de gérer n'importe quoi, n'importe quand. Mmh. Je pense que ça vient, ce qu'on observe, là, pour avoir un collègue qui travaille là-dessus, ça vient réconforter les gens dans une situation de pandémie, que les gens ont l'impression de reprendre le contrôle.
Ah ouais, c'est clair.
Je me supplémente en vitamine D, ça pourrait être en n'importe quoi, mais c'est pas pour l'effet de la supplémentation comme telle, c'est l'effet psychologique que ça a sur... OK, là je ne suis pas en détresse par rapport à la pandémie. Là, je fais quelque chose, puis ça va m'aider.
Puis, tu sais, les boutiques de suppléments pour... en fait, Mac, tu es pour XPN, fait que peut-être que tu peux confirmer ça ou non, mais une boutique de 3... J'ai des amis qui ont une boutique de suppléments à 3 heures, puis honnêtement, là, le commerce des suppléments pendant la COVID, là, ça a monté, c'était ridicule. Là. Tout ce qui était vitamine D, magnésium, c'était sold out tout le temps, puis ça a sorti épouvantable. Là. Fait qu'il y a définitivement quelque chose à ce niveau-là, là, je pense. Là. En tout cas, à Trois-Rivières, chez cette boutique-là, de manière précise. Là.
Je ne pourrais pas te dire. Moi, je suis contractuel, donc je suis pas dans le secret des dieux des
ventes. Ouais, c'est clair. Parfait, ça. Autre question. Là, j'ai hâte de voir. Il nous en reste une bonne question que je voulais entendre, qui est ce que vous conseillerez à des débutants en santé pour au niveau santé générale, qui était une question qui m'a été posée. Sinon, je pense qu'on a pas mal répondu à toutes. Dernière petite question. Non, c'est pas vrai. Si vous avez d'autres questions, on va y répondre, mais n'hésitez pas parce que là, on achève, ça attire à la fin. Des suppléments de qualité, il y a vraiment trop de marques. C'est quoi vos recommandations? On a tout à commencer par Mathieu depuis le début, fait qu'on va commencer par Maxime.
Oh! Moi, là-dessus, tu disais là, que je suis un croisé là, au début. Là. Moi, j'ai vraiment un gros parti pris pour l'accréditation NSF. pour l'évaluation de la qualité des produits. Puis, entre autres, parce qu'à un moment donné, j'ai testé les différentes compagnies qui faisaient des accréditations. Leur envoyer un simple courriel pour savoir quel est votre processus, une couple de questions spécifiques. Et il n'y a aucune compagnie qui m'a répondu, sauf NSF. Toutes les autres n'ont jamais répondu à mon courriel de questions. Fait que déjà, moi, c'est un turn-off. Mais tu sais, je pense qu'à la base, là, un supplément de qualité, ben il faut qu'il y ait une certification valide. Mm-hmm. Parce qu'en absence de certification valide, tu peux avoir des gens de bonne foi comme des gens de mauvaise foi qui vont faire un produit qui n'est pas de bonne qualité. Puis moi, j'ai eu des amis qui sont lancés des lignes de suppléments puis qui disaient « Non, nous autres, ça va être legit, on va bien le faire. » Puis je sais que ces gens-là étaient totalement honnêtes, intègres puis qui voulaient bien faire. Mais le fournisseur chez qui ils s'approvisionnent, lui, il leur dit que c'est de la top qualité qu'il leur vend. Mais c'est-tu ça? Puis lui, où est-ce qu'il achète son stock? C'est, tu sais, fait que quand tu sais pas la provenance des matières premières, quand tu sais pas comment ça a été entreposé, manipulé, fabriqué, etc., pour moi, c'est toujours un gros question mark. Là, tu sais. Ça veut pas dire que c'est pas du bon stock, mais tu sais, c'est quasiment quand je donne un examen à un étudiant, puis à la fin de l'examen, je dis, puis comment ça a été? Ah, je pense que ça a bien été. Quelle note tu penses avoir? 80, 85? Bon, ben OK, je vais te mettre 85. Ben, j'aime mieux quand c'est corrigé pour vérifier que c'est effectivement 80, 85, tu sais.
Mathieu?
Ben, tu sais, il faut savoir que dans le domaine du supplément, il y a quand même plusieurs compagnies qui font affaire avec un testing aléatoire. Donc, on ne se fie pas toujours, quand la matière première rentre, on ne se fie pas toujours au spec. Il y a des compagnies que... Et ça, ça ne se sait pas vraiment. Tu sais, il y a des compagnies comme Believe qui font un third-party testing sur tout. C'est comme ça leur coûte vraiment cher. Fait qu'ils font, eux autres font un third party sur tous les ingrédients qui rentrent donc dans leur chose. Fait que déjà là, c'est intéressant. Après ça, tu as une autre compagnie, exemple chez Control Lab. Il y a des matières premières que aléatoirement, le propriétaire pourrait envoyer faire analyser. Là. Mais c'est parce qu'imagines-tu que tu viens de commander 50 kilos d'acide alpha lipoïque.
Ouais, c'est fourrel ça, ouais.
Analyser, tu ne l'as pas. Le gars au bout, il faut qu'il rembourse et les pertes et la perte de temps. Et ça, c'est perte d'un client. Fait que, tu sais, quand tu commandes toujours, disons, des fournisseurs fiables, parce que si tu n'es jamais allé dans un show de fournisseurs de suppléments, je te suggère la prochaine fois, Max, d'aller au Supply Sidewest à Las Vegas, la prochaine fois qu'il va en avoir un. Okay. C'est le plus gros show de fournisseurs de matières premières en suppléments. Ça ne rentre pas dans le stade olympique.
C'est quand même cool, là.
On met les B. T'es déjà allé à Las Vegas?
Malheureusement, oui, à quelques reprises.
C'est au Mandalay Bay, au bout de la strip. Ils ont un centre de conférence, puis en fait, c'est tout le centre de conférence.
OK.
C'est quand même cool,
hein? Vraiment. C'est sûr que ceux qui sont jamais allés, donner une idée, le hall d'entrée du salle de conférence, on pourrait avoir une game de football dedans.
Ouais.
Ça, c'est le hall d'entrée. Fait que, c'est gigantesque, là. Puis eux, toutes les compagnies qui sont là, eux vendent que de la matière première. Fait que tu te dis, puis il paraît qu'avoir un book là-bas, ça, c'est dans les 5 chiffres, là. Fait que, tu sais, le client qui s'est payé un bout, pas mal sûr que si tu prends un instrument de ces compagnies-là, il y a des chances que la qualité soit là. À moins que tu aies une gang de crosseurs ensemble qui se soient payés des poudres d'inutilité. Là. Ouais. Puis, il y a des trademarks là-dessus. Puis, tu sais, il y a beaucoup de compagnies qui ont des marques déposées sur leurs ingrédients. Fait que, oui, tu peux avoir de la cochonnerie. Normalement, je vais t'avouer, Max, que si tu as de la cochonnerie, c'est parce que c'est ça que tu voulais.
Ouais.
Parce que pour avoir entendu des discours dans le domaine du supplément, puis avoir vu, parce que je connais beaucoup de propriétaires de compagnies de suppléments ou de manufacturiers, recevoir des courriels de cycler les culottes, puis se faire dire « Salut, j'aimerais ça pas payer plus cher que 12$ pour mon pot, mais j'aimerais ça avoir ça dedans. Est-ce que ça se fait? » Le gars, il dit, bah, tu sais, les propriétaires, ils me disent, parce que, tu sais, les deux premiers ingrédients coûtent 12$. Mais que là, souvent, ils répondent, « OK, mais tu veux-tu les dosages que tu as écrits? » Non, non, non. Mais ce qui coûte 12$, écris les dosages qui sont écrits.
Ouais.
Mais tu sais, premièrement, c'est assez de faire ça, c'est contrôlable, Dan. Il va ignorer tes courriels pour les prochains 2 siècles. Fait que tu sais, c'est inutile. Mais il y a d'autres manufacturiers qu'eux autres vont dire, ben, pas mon maudit problème, c'est ton NPM.
C'est ça.
Fait que tu sais, c'est là. Parce qu'au Québec, on a la chance, tu sais, si tu regardes, mettons, les 3 grosses compagnies de suppléments québécoises, on va dire pures, on parle de XPM, on va dire. Believe puis ATP. Ben, premièrement, Believe et ATP ont déjà tout été fabriqués chez Control Lab. Maintenant, Believe a une partie de sa production et ATP a sa propre usine. Fait que déjà là, au niveau qualité de ce qu'il y a dans le pot, mettons que je suis pas mal sûr que c'est fiable. Après ça, d'autres compagnies, quand tu tombes dans le thérapeutique, c'est sûr que ces compagnies-là, au prix qu'ils vendent le produit, tu sais, le cost des suppléments, c'est pas quelque chose qui est si cher que ça. Là. Ça coûte de l'argent à faire. Il faut que tu aies de l'argent à la base parce que faire le produit. Fait que, oui, il y a des compagnies vraiment mauvaises et je te dirais que aux États-Unis seulement. Au Canada, Santé Canada est un peu plus gossant que le FDA sur les suppléments. Il y a moins d'argent à faire que le marché canadien. Fait que, c'est un peu moins intéressant. Mais oui, aux États-Unis, on a vu ça quand même beaucoup. Là. Je me souviens d'une quinzaine d'années, le propriétaire au Physimax a fait analyser les protéines américaines par un lab indépendant. Il avait payé sa poche dans l'analyse de savoir combien il y avait de protéines dans les pots. Et il n'y a pas une compagnie américaine qui sortait sur l'étiquette. T'sais, même les meilleurs, ils sortaient tous 10 % sous, ce qui est légal au Canada, mais c'est ça.
Mais tu sais, la question étant, c'est quoi des suppléments de qualité? La réponse à Mathieu serait les grosses marques québécoises en ce moment. Ça serait Bolive, XPN,
etc. De base, tu sais, si tu veux aller dans le supplément thérapeutique, les marques thérapeutiques, tu veux Metagenics, Design for Health, Xymogen, c'est sûr que là, tu seras pas fourré. Après ça, bien sûr, tu vas chez XPN, tu vas chez ATP, tu vas chez Bolive, tu vas chez BNI. BNI est fabriqué chez Control Lab aussi. Tu ne seras pas à voir. Après ça, les autres, je ne les connais pas. C'est pas que je ne dis pas que le produit n'est pas bon. J'ai jamais travaillé pour eux. Donc, je ne pourrais pas te dire. Je le sais qu'il y en a qui ont des bons produits. Je ne connais pas les propriétaires. Envoyons pas de la marge. Si vous dites, hey, c'était bon, tu n'en as pas parlé, je ne le sais pas. Tu sais, je n'ai pas de mauvais commentaires. Mais tu sais, pour moi, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, ces compagnies-là, tu n'auras pas de problème avec.
Quelque chose à rajouter là-dessus, Maxime?
Non, rien d'autre à rajouter.
Good! Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il nous reste une question. Est-ce que Maxime enseigne à l'UQTR? Est-ce que je vais l'avoir comme professeur? Maxime n'enseigne pas à l'UQTR. Par contre, moi, j'ai déjà enseigné à l'UQTR. Fait que tu aurais pu m'avoir comme moi. T'es juste pogné à la bonne année. Mais fait que non, Maxime n'enseigne pas à l'UQTR. T'es à Ottawa, Université d'Ottawa. Maxime, donne des
cours. De temps en temps, Cégep du Vieux. De temps en temps, Université d'Ottawa.
T'as un look, Cégep du Vieux aussi.
Exact. Super ça. Fait que je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ah, une petite question. Une minute chaque pour répondre. On va se donner une question rapide, une question que j'avais eue. Si vous pouviez conseiller à quelqu'un pour la santé, quelqu'un qui commence, qui débute, ça serait quoi vos premiers conseils? 3 conseils maximum, on est parti, Mathieu en premier.
Élimine le plus d'aliments transformés ton alimentation possible. Ouais. Garde un horaire de sommeil relativement stable. Et arrête d'écouter les nouvelles si tu vas avoir de l'information.
Maxime?
Moi, je vais dire, première chose, sois conscient de ce que tu manges, d'avoir une idée, parce qu'il y a du monde, des fois, qui disent qu'ils mangent tant de protéines, puis non, il n'y a pas de protéines en quantité suffisante dans un Pop-Tart, par exemple. D'être conscient de ce qu'ils mangent. Deux, être conscient, je dirais, du temps d'écran puis du temps assis.
Ouais.
C'est bon, hein? Mais en lien justement avec l'entraînement, quelqu'un qui commence, là, la sédentarité, ça semble être un facteur qui affecte beaucoup la capacité de progression d'un individu. Fait que de plus en plus, fait que quelqu'un qui commence, plus il aurait de temps assis, plus il aurait de temps écrasé devant un écran, ben moins il profiterait de l'air d'aller initial qu'on peut avoir en entraînement.
Mm-hmm. T'en manques une.
Troisième, être heureux.
Excellent ça. On peut pas laisser ça sur une parole de sagesse comme ça. Je pense qu'on peut plus rien rajouter à partir de ça. Ça va faire le tour. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Si jamais vous avez des questions pour Mathieu, où est-ce que les gens peuvent te trouver, Matt?
Yeah, ben, ma page Facebook ou mon Instagram à The Holistic ND. Donc, c'est assez facile de me trouver là.
Facebook Mathieu Bouchard ND, me semble.
Non, c'est rendu Mathieu Bouchard The Holistic ND. J'ai tout mis pareil comme
ça. Tout optimisé ça. Maxime?
DrKin.com ou ma page Facebook DrKin?
S'il y en a qui ont aimé le podcast, si jamais vous désirez en entendre plus, Maxime, on fait des podcasts à toutes les semaines via la confrérie de métal. Vous pouvez vous abonner sur votre application de podcast préférée. Si vous êtes déjà sur la plateforme, vous savez que je vous aime d'amour. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles positif. Ça fait une grosse différence dans la visibilité. On se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Si jamais vous avez des points ou des questions que vous voulez qu'on amène, des invités qu'on ait sur le podcast, n'hésitez pas. Ça nous fait plaisir d'avoir vos suggestions et de parler avec vous autres. Puis, ça va faire la fin. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Un nouvel épisode de la Confrérie de métal à chaque jeudi, 14h en live, sinon sur le podcast quand vous voulez. Puis, on se reparle une prochaine fois. Merci à vous autres d'avoir été là aussi.